L'Éden de Satan numéro 181. L'alliance du mariage numéro 9. Le 9e commandement. Tu n'émis porteras pas de faux témoignages. Le dimanche 18 août 2024. Brian Kozurek. Pasteur. Restons debout pendant que nous lisons la parole de Dieu. Exode 20.16. Tu n'émis porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Inclinons maintenant nos têtes et nos cœurs dans un mot d'action de grâce et de prière. Père miséricordieux, nous sommes encore très reconnaissants, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous arrivons à la fin. Nous voyons que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà imposé au gouvernement un dictat, qu'il y aura des vaccinations forcées cette fois-ci. Ils cherchent la variole du singe et ce genre de choses. Alors, Seigneur, nous savons que ce monde n'est tout simplement pas notre. Et, Père, nous cherchons simplement à nous en aller d'ici. Alors, Père, nous prions simplement que tu nous amènes avant que toutes ces choses n'aient mis s'effondre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous tirons notre texte d'Exode 20.16. Tu n'émis porteras pas de faux témoignages. Maintenant, rappelez-vous, nous parlons des vœux de mariage, et donc nous examinons ce qu'un mari ou une femme se dirait l'un à l'autre. Ce sera le numéro 9 de notre série sur l'alliance du mariage, et nous parlerons du 9e commandement, tu n'émis porteras pas de faux témoignages. Encore une fois, nous prenons ces 10 commandements dans cette série, et nous montrons leur application dans l'alliance du mariage. Comme je l'ai dit tout au long de cette série, je crois que Dieu a donné à l'homme les 10 commandements non pas comme une arme avec laquelle nous démoraliser, mais comme des lois pour réglementer et promouvoir une meilleure relation entre Dieu et l'homme. Et donc, en tant que loi pour réglementer et promouvoir les relations, je crois qu'elles sont un outil très utile dans l'alliance du mariage pour promouvoir une relation plus saine entre l'homme et sa femme. Comme nous l'avons vu dans notre étude du 8e commandement, tu n'émis voleras point, aucun mariage n'émis peut durer dans une atmosphère égoïste. Une atmosphère où s'astère moi en premier. Maintenant, nous avons trouvé, et s'astère la même chose avec cette 9e alliance. Tu n'émis rendras pas de faux témoignages. Parce que si Sester moi d'abord, alors on va s'occuper de soi en premier. Et puis, on a cette attitude, où on va regarder chaque faute qu'on peut trouver et tout le temps les évoquer au lieu de les ignorer, comme Dieu les regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Ok, maintenant, Dieu n'émis regarde pas le sang de Jésus-Christ en disant, eh bien, maintenant vous avez cette faute, cette faute, cette faute. Vous êtes totalement, totalement justifié. Et l'Esther tant que nous, nous justifions les uns les autres. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'excuser ou de trouver des excuses, mais de regarder à travers le sang et de dire, je sais qu'il y a d'autres choses à considérer ici. Donc, en d'autres termes, être humble dans notre condamnation des uns des autres et être aimant, parce que sans l'amour parfait, personne n'émis parviendra à cet endroit de toute façon. Nous avons constaté qu'un mariage typique basé sur un concept 50-50 Esther voué à la ruine parce qu'il Esther basé sur un système de mérite, et que personne n'émis peut être à la hauteur des attentes de l'autre. Je n'émis peut pas être à la hauteur des attentes de mes enfants ou de ma femme, ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc ça n'y marche pas. Le système de mérite 50-50 dit, si vous faites cela pour moi, je le ferai pour vous. Je te gratterai le dos, mais tu dois gratter le mien. Et une fois que vous aurez arrêté de gratter le mien, je vais arrêter de gratter le vôtre. Vous voyez, ce n'est pas vraiment comme ça que le mariage devrait être. D'accord? Ça devrait être, je gratterai le vôtre, que vous grattiez le mien ou pas. C'est Esther la philosophie, grattez-moi le dos et je gratterai le vôtre. Et elle Esther vouée à l'échec, et elle doit échouer parce qu'elle est Esther basée sur des attentes, et à moins que les deux n'aient la même compréhension de ce qui Esther attendue, vous Néhémie pouvez jamais satisfaire l'autre. Maintenant, cela Néhémie veut pas dire que c'est Esther ok pour moi de vous gratter le dos, mais vous n'avez pas à gratter le mien. En fait, ce n'est pas une situation gagnant-gagnant. Cela signifie que vous avez un partenaire égoïste et un autre qui n'est mis l'Esther pas. C'est Esther basé sur deux partenaires altruistes. De plus, toute relation qui n'est pas basée sur la grâce n'est durera jamais. Et la grâce dit, je t'aime malgré tout et je veux faire quelque chose pour toi même si tu n'es mis fais rien en retour. Maintenant, vous pouvez dire, ok, c'est Esther bon. Je n'ai mis ferai rien en retour. Cela montre que votre attitude est Esther mauvaise, et votre attitude devrait être, eh bien, que puis-je faire pour toi? Parce que tu as fait cette chose pour moi tant de fois. Et quand vous n'attendez rien en retour, vous êtes béni quand on vous donne quelque chose. Jésus a dit, faites quelque chose, sans rien attendre en retour. Il a aussi dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Donc, si vous aimez que quelqu'un vous gratte le dos, je suis sûr qu'il aimerait aussi qu'on lui gratte le dos. Maintenant, je n'ai mis dit pas ça parce que, ce n'est pas vraiment une chose qu'on trouve dans notre maison, nous n'ai mis faisons pas beaucoup de grattage du dos. Nous faisons le lavage des pieds. C'est Esther pourquoi nous savons que Marc 9, 35 et il s'assit et appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, celui-ci sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est Esther comme quand nous parlions de la femme vertueuse, de la façon dont elle fait passer tout le monde en premier, sa famille en premier, puis elle se met elle-même en dernier. N'est-ce pas? Au lieu de vouloir être le premier, nous devons être disposés à être les derniers. Au lieu de vouloir être servi, nous devons être prêts à servir. 2. Jésus a aussi dit dans Matthieu 16, 25 car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Donc, si vous essayez de vous sauver de quoi que ce soit, vous allez la perdre. Point final. Vous devez donc être prêt à vous oublier et à commencer à servir les autres. Au lieu d'essayer de sauver nos vies, nous devons les perdre. Nous devons aimer notre prochain, notre conjoint, eux, autant que nous nous aimons nous-mêmes. Nous devons arriver au point où l'égocentrisme n'a pas sa place dans notre vie. Si nous voulons être servis, alors nous devons servir. Pour avoir des amis, vous devez vous montrer amical. Je n'aime m'en amuse pas, mais il y a certaines personnes que vous rencontrez, elles sont juste en colère contre tout le monde. Elles n'aiment font que dire du mal à qui de tout le monde. Et elles disent, eh bien, je n'arrive pas à comprendre pourquoi personne n'aime veut me parler. Eh bien, c'est Esther parce que vous parlez mal à qui de tout le monde. Pourquoi n'apprenez-vous pas à parler gentiment de tout le monde? Et alors ils voudront être avec vous. Ils voudront en entendre davantage, car, écoutez, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. J'éteins mon écran. Mais s'il y a de bonnes nouvelles, je regarderai de plus en plus. D'accord? Si nous voulons être servis, alors nous devons servir. Pour avoir des amis, vous devez vous montrer amical. C'est ce que dit la Bible. L'isolement n'engendre jamais d'amitié. Vous Néhémie pouvez pas être un reclus et vous attendre à avoir des tas d'amis. N'est-ce pas? Être là pour les autres, récoltera les autres qui seront là pour vous. Vous récoltez ce que vous semez, si vous semez avec parcimonie, vous récolterez aussi avec parcimonie. Maintenant, je n'ai mis c'est pas pourquoi. Nous sommes dans ce message depuis 40, 50 ans et les gens n'ai mis comprennent tout simplement pas. Vous récoltez ce que vous semez. Et si vous semez avec parcimonie, vous récolterez aussi avec parcimonie. Les gens disent, eh bien, je suis l'épouse. Donc je peux récolter. je peux semer ce que je veux, et ainsi de suite. Et Frevel l'a exprimé de cette façon. Il a dit, vous pourriez être l'épouse. Mais il a dit, si vous semez, vous allez récolter et vous allez récolter dans cette vie. Maintenant, il nous reste encore du temps dans cette vie. Je n'ai aimé veut donc pas récolter. Si vous semez avec parcimonie, vous récolterez également avec parcimonie. Si vous êtes avare dans votre aide aux autres, vous recevrez peu en retour. Semez abondamment et vous récolterez abondamment. 2 Corinthiens 9, 6 Mais je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Le mot abondamment signifie le faire avec grâce, bénédiction et louange dans vos cœurs. 3. Cela ne veut pas dire que je vais me boucher le nez pendant que je donne quelque chose à cette personne. Cela signifie le faire dans l'amour. La Bible continue, celle que chacun donne selon qu'il l'a résolu dans son cœur, pas avec regret, pas avec de la tristesse dans le cœur, ni de la douleur et du chagrin. Maintenant, tout le monde sait que lorsque vous faites quelque chose avec regret, vous posez l'assiette, vous mettez la nourriture dans l'assiette, vous la poussez devant son nez, mange ça. Ce n'est-ce pas faire de bon cœur, avec amour. C'est-ce juste dire, je fais mon devoir, mange. Ce n'est tout simplement pas la façon dont cela devrait être fait. Et je n'ai mis dit pas que quelqu'un ici fait ainsi. Je dis juste que c'est juste un exemple, que vous voulez montrer quoi que vous fassiez avec une attitude, pour que la personne dise, vous savez quoi? J'ai plus apprécié la façon dont ils m'ont donné, quoi que ce soit qu'ils m'ont donné, plus que la chose elle-même. En d'autres termes, la nourriture avait peut-être bon goût, mais l'amour qui l'accompagnait était meilleur. Non, cela ne vous rapportera jamais rien de bon. Si vous vous contentez de la leur jeter à la figure. Comme le mari qui travaille dur toute la journée et qui rentre à la maison et que la femme dit, eh bien, il y a pour toi un dîner dans le four, que tu mangeras seul devant la télé. Sers-toi. Il n'y a rien là. Combien ont déjà donné et puis plus tard ceux à qui vous avez donné se retournent contre vous et vous regrettez de leur avoir donné autant de vous-même? Cela m'est arrivé maintes et maintes fois. Je veux dire, nous avons construit des maisons, nous avons construit des églises, nous avons construit toutes ces choses. Nous avons donné des vélos, nous avons donné des voitures, nous avons donné des motos, nous avons tout fait. Et certains frères nous ont dit que ce n'était pas suffisant. Quand j'ai dû les taper sur les doigts, parce que je leur avais donné une certaine somme d'argent pour aider d'autres frères, ils ont décidé de se faire imprimeur. Et j'ai dit, je suis désolé, ce n'était pas dans le budget. Vous êtes censé utiliser cet argent pour d'autres, vous ne l'avez pas utilisé. Je vais rompre les liens avec vous, et je l'ai fait, j'ai rompu les liens avec eux sur le champ. Eh bien, Paul nous dit ici que Dieu n'aime pas ce genre d'attitude, parce que cela montre qu'une personne n'est même pas chrétienne. Vous donnez et vous êtes heureux quand vous avez l'occasion de donner, et même s'il se retourne contre vous, cela ne devrait pas avoir d'importance. C'est entre eux et Dieu. Mais vous n'avez plus à vous en occuper. Parce que la Bible dit de le rejeter comme hérétique. Cela ne veut pas dire qu'il faut le traiter salement. Cela ne veut pas dire qu'il faut le traiter comme une ordure. Cela signifie simplement rejeter. Éloignez-vous simplement. Si vous donnez avec regret, vous recevrez avec regret. Regardez, ça arrivera. Or Paul dit, celle que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec regret, ni par contrainte. Donc, si vous ressentez que ce que vous recevez, vous a été donné avec regret, c'est peut-être parce que vous avez donné avec regret en premier. En d'autres termes, vous recevez votre dû. Non pas que nous soyons censés être là à distribuer des dûs. C'est l'affaire de Dieu, n'est-ce pas? mais notre travail consiste simplement à donner sans aucun regret. 4. En d'autres termes, Néhémie, donnez pas parce que vous devez donner, ou parce que vous pensez que vous feriez mieux de donner, parce que vous, Néhémie, recevrez des autres, que de la même manière que vous donnez aux autres. Et Paul poursuit en disant, car Dieu aime celui qui donne avec joie, joyeusement. 8. Et Dieu est capable de faire abonder toute grâce sur vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous suffit en toutes choses, vous abondiez en toute bonne œuvre. Donc, en d'autres termes, la grâce est une chose merveilleuse. Et si vous pouvez avoir de la grâce pour les autres et faire des choses pour les autres, et n'aimez même pas regarder les conséquences, simplement les faire et les aider, cela va revenir sur vous. Et Dieu fera la même chose pour vous. J'aimerais lire cela dans le texte massorétique. Rappelez-vous de cela, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie. Alors, quand le moment viendra et que quelqu'un souffrira et que vous lui donnerez un sou, vous récupérerez un sou un jour. Vous leur donnez une pièce de 500, vous récupérerez une pièce de 500 en retour. Vous leur donnez 5 dollars, ou 10 dollars, vous récupérerez 5 ou 10 dollars. En d'autres termes, je n'ai dit pas qu'ils vous sont obligés, mais cela vient de Dieu. Je me souviens qu'il y a des années, j'étais au chômage et je passais du statut d'enseignant à celui de chercheur d'emploi dans le privé. Je n'ai reçu qu'un très petit montant à l'époque, mais j'ai reçu quelques semaines d'indemnité de chômage, et je n'ai voulais pas les accepter. Nous allions à des réunions dans le Dakota du Sud et il y avait des gens qui Néhémie ne pouvaient pas se le payer, alors je leur ai juste donné l'argent. J'ai dit, allez-y et prenez-les. Et donc, de toute façon, je Néhémie ne savais pas comment j'allais y aller, mais j'y suis allé. Eh bien, devinez ce qui s'est passé? 2 semaines avant notre départ, j'ai reçu un chèque par la poste de l'état de ma retraite de l'enseignement. J'ai donc été béni par beaucoup de choses pour ce que j'ai donné. Cela montre simplement votre attitude. Si vous avez une bonne attitude, cela vous revient. Et bien des fois, vous recevez des chèques par la poste, vous voyez des chèques de ceci ou de cela et vous n'aimiez, saviez même pas d'où cela venait, ni pourquoi c'était venu. Mais c'était parce que c'était Dieu qui l'avait fait. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. C'est que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Remarquez, ce Néhémie sont pas tous ceux qui donnent, mais c'est celui qui donne avec joie que le Seigneur aime. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. 8. Et Dieu est capable de faire abonder toute grâce sur vous. Voyez donc, si vous n'avez pas de grâce pour les autres, comment Dieu va-t-il vous donner de la grâce? Très bien, vous devez prendre une partie de votre grâce et la donner afin d'avoir plus de place pour sa grâce. 8. Et Dieu est capable de faire abonder sur vous toute grâce, de sorte qu'en toute chose et en tout temps, ayant tout ce dont vous avez besoin, vous abondiez en toute bonne œuvre. 5. 9. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses dons aux pauvres. Sa justice dure à toujours. 10. Or, celui qui donne de la semence au semeur et du pain pour la nourriture donnera aussi et augmentera ta réserve de semences, et il multipliera la moisson de ta justice. 11. Vous serez enrichis de toutes les manières, de sorte que vous serez généreux en toute occasion. Et par notre intermédiaire votre générosité se traduira par une action de grâce à Dieu. C'est si merveilleux d'entendre les frères d'outre-mer, ils sont tellement reconnaissants. Vous voyez, Dieu donne à ceux qui donnent, pour qu'à travers eux ils puissent donner encore plus. C'est ainsi que Dieu opère. Lorsque vous montrez à Dieu que vous êtes disposé à donner, il pourvoira à vos besoins afin que vous ayez plus à donner. 12. Ce service que vous accomplissez Néhémie pourvoit pas seulement aux besoins du peuple de Dieu, mais il déborde aussi en de nombreuses actions de grâce envers Dieu. 13. À cause du service par lequel vous avez fait vos preuves, Les hommes loueront Dieu pour l'obéissance qui accompagne votre confession de l'évangile du Christ, et pour votre générosité à partager avec eux et avec tous les autres. 14. Et dans leur prière pour vous, leur cœur s'étendra vers vous, à cause de la grâce incomparable que Dieu vous a donnée. 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don indescriptible. Maintenant, bien que nous puissions continuer avec ces pensées d'égoïsme par rapport au cœur généreux dans un mariage, nous devrons aller de l'avant dans notre étude de ces 10 commandements de l'alliance du mariage. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais continuer avec le 9e commandement, Exode 20, 16. Tu n'aimes portera pas de faux témoignage contre ton prochain. Maintenant, la question qui se pose est la suivante, comment cela est-il lié à l'alliance du mariage? Notre réponse est très simple. Mais d'abord, nous devons savoir ce que signifie porter de faux témoignages. Le mot hébreu utilisé ici est le mot shker, shker, et il signifie décevoir, falsifier ou tromper. En d'autres termes, le gars peut faire quelque chose que vous n'aimez pas, et donc vous falsifiez en quelque sorte ce qu'il a fait. En fait, vous rajoutez à ce qu'il a fait. La plupart des disputes sont tellement pathétiquement stupides, parce qu'ils se disputent pour des choses simples et triviales, mais elles les font exploser. Elles les font toujours exploser. Vous pouvez regarder n'importe quel procès en audience et voir, eh bien, il m'a fait ceci, et donc je lui ai fait cela. Ce sont juste des enfantillages. Et comment une union conjugale pourrait-elle rester unie lorsque le mari ou la femme ment à l'autre, ou trompe délibérément l'autre, ou il ou elle vit une vie de tromperie? Maintenant, je n'émis parle pas de malentendu. Je parle de tromperie délibérée et de comportement frauduleux. Maintenant, rappelez-vous, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc, vous pourriez parler et dire quelque chose à l'autre, et cela sonne complètement faux parce que vous venez de Vénus et qu'il vient de Mars. En d'autres termes, notre pensée. Comme Dieu a dit, mes pensées n'émis sont pas vos, 6, pensées. C'est pourquoi nous avons tant de dénominations, et ils pensent avoir raison, mais ils ont tort. Mes pensées n'émis sont pas vos pensées, et mes voix n'émis sont pas vos voix. Alors, et, apprenons à penser comment l'autre personne pense, d'accord? Le mot shker, comme je l'ai mentionné, utilisé pour faux témoignage, vient de la racine du mot shakar, shokar, qui signifie traiter faussement ou tricher. Par conséquent, nous pouvons revoir qu'il y a un certain égocentrisme chez une personne qui est occupée par le mensonge, ou qui crée une atmosphère de déception et de méfiance. Pourquoi êtes-vous toujours déçu? Pourquoi râlez-vous toujours? Pourquoi êtes-vous toujours malheureux? J'ai une vieille expression, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous partagent le même sentiment que la Bible exprime, pour avoir des amis, vous devez vous montrer amical. Pas vrai? Eh bien, une personne qui est toujours négative est négative, pas envers les personnes auxquelles elle est associée. Je veux dire, ces gens-là ne vous rendent pas négatif. Vous vous rendez négatif. Quand vous râlez, c'est à vous qui avez un problème. Ce n'est sont pas les gens à qui vous vous adressez. C'est à vous qui avez le problème. Vous êtes malade. Vraiment malade, je parle de spirituellement malade. Et pour vous, les jeunes, ce qui me préoccupe c'est que vous soyez très prudent dans votre décision de trouver un conjoint. Vous feriez mieux de vous assurer que la personne qui vous intéresse est mature et qu'elle a un cœur généreux. Parce que s'ils sont égoïstes ou égocentriques, alors vous serez toujours perdante. Et vous dites, comment puis-je savoir que ce gars ou cette fille a un cœur généreux? Eh bien, tout d'abord, voyez s'ils donnent librement leurs dîmes et leurs offrandes. Je n'ai dit pas cela pour soutirer de l'argent. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Le font-ils avec regret et parcimonie? Alors, s'ils le font avec Dieu, que pensez-vous qu'ils feront avec vous? Je connais plusieurs hommes qui sont si chiches avec leurs femmes au point que celles-ci sont finalement allées travailler juste pour avoir de l'argent dont elles pouvaient se sentir libres de dépenser pour des petites choses. Et quand vous suivez l'argent, vous découvrirez aussi que ces mêmes hommes sont très chiches avec Dieu. Ils n'émettent pas l'indime, ils n'émettent contribuent pas aux offrandes de leur église, et ils pensent que s'ils donnent quelques centaines de dollars par an à leur église, ils sont les derniers des gros dépensiers. Nous avions un gars ici. Je n'émettrais pas qui c'était, mais cela exprime leur attitude. C'est-à-dire comme quand j'avais prêché lors d'un mariage, et que j'avais dit, comme, cela signifie de la même manière, que Christ a aimé l'Église, le mari Esther sans s'y aimer la femme. Donc, si vous avez 100 dollars, pour vous acheter un fusil, alors vous devriez lui donner 100 dollars, pour qu'elle s'achète ce qu'elle veut. Et un homme Esther venu vers moi et m'a dit, eh bien, je fais ça. J'achète mon fusil et je lui donne de l'argent, pour s'acheter un balai. C'est-à-dire qu'un pauvre type, et donc cette femme vit un véritable enfer. Il y a une vieille expression, suivez l'argent, et cela fonctionne à chaque fois. Frère Vell m'a dit, il y a des années, que si vous observez ce qu'une personne fait avec son argent, cela vous en dira plus sur cette personne que presque toute autre chose. Et c'est-à-dire tellement vrai. Suivez l'argent. 7. Vous voulez savoir à quoi ressemblera ce garçon en tant que mari dans 5 ans? Suivez l'argent. Vous voulez savoir à quoi elle ressemblera en tant qu'épouse dans 5 ans? Suivez l'argent. En d'autres termes, dépense-t-elle tout ce qu'elle a? Est-ce ce qu'elle achète toujours des choses? Se fait-elle toujours plaisir? Ou dessine-t-elle de faire d'abord plaisir à ses enfants ou à ses petits-enfants ou même à son mari? Que fait-elle de son argent supplémentaire? Que fait-il du sien? J'ai aussi dit, il suffit d'observer comment il traite sa mère et d'observer comment elle traite son père. Si elle Esther insolente a dit des choses sur son père, elle en dira aussi sur vous. Met-il Dieu en premier? Esther est une personne altruiste, qui place les besoins des autres au-dessus des siens? Esther est une personne généreuse qui s'occupe des besoins des autres avant de s'occuper des siens? Eh bien, comment le savez-vous? Suivez l'argent. Faites-vous des chèques sans provision? Avez-vous des dettes de carte de crédit? Suivez l'argent. Je connais un jeune homme qui, et peut-être que je n'ai mis, devrait pas en dire beaucoup, mais il gagnait très bien sa vie. Et il vieillit et s'apprête à prendre sa retraite, et il n'a rien pour lui-même. La femme a tout dépensé. Elle n'y pensait pas au lendemain. Elle n'y pensait qu'à aujourd'hui. Ensuite, commencez à poser la question des 5 pourquoi. Pourquoi avez-vous une dette de carte de crédit? Puis quand il vous dit ce qu'il a acheté, puis redemandez-lui, pourquoi l'avez-vous acheté? Puis quand il vous dit pourquoi il l'a acheté, puis redemandez pourquoi. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi jusqu'à ce que vous arriviez à la source du problème, qui n'estère jamais un besoin, mais un désir qui n'a pas été maîtrisé. Il y a des années, dans une autre église que je fréquentais, un certain frère Esther venu voir les diacres parce qu'il n'aimait pouvait pas payer le loyer de son appartement ce mois-là. Il Esther venu voir les diacres pour s'enquérir de l'aide de l'église pour l'aider à payer son loyer. La première question que le diacre en chef lui a posée était, qu'avez-vous acheté récemment, qui n'est-ce pas un achat habituel pour la nourriture ou les vêtements? Après quelques questions, ils ont découvert qu'il avait acheté une chaîne stéréo qu'il n'aimait pouvait pas s'acheter. N'oubliez pas qu'à l'époque, les chaînes stéréo étaient grandes et coûtaient beaucoup d'argent. Au lieu de lui donner l'argent du loyer, on lui a conseillé de rendre la chaîne stéréo et il pourrait payer lui-même son loyer. Eh bien, c'était un diacre sage. Pourquoi l'église devrait-elle vous payer pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin? Que ce diacre le sache ou pas, il suivait la piste de l'argent, et cela a conduit à la source du problème. Désir, 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 désir. D'accord. Sester comme quand vous observez ces SDF. Et je n'ai mis dit pas. Je sais qu'il y a différents cas et différentes raisons pour lesquelles les gens sont SDF. Mais la plupart d'entre eux, ils m'ont dit dans la rue, et ils gagnent quelques centaines de dollars, et Sester finit le lendemain parce qu'ils le dépensent en alcool et en 8 cigarettes et en une mauvaise façon de vivre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est mis va pas dans leur tête? Sester comme le vieux cow-boy. Il va en ville après avoir reçu son chèque de paie et il sort, se trouve une copine et le dépense en alcool. Qu'est-ce qui n'est mis va pas dans leur tête? S'ils économisaient tout leur argent, il se peut qu'ils puissent un jour s'acheter un ranch, puis embaucher d'autres personnes pour s'occuper de leur bétail. Les gens n'aimés pensent pas à demain. Ils n'aimés pensent qu'à aujourd'hui. Sester comme quand nous avions des enfants qui dirigeaient les champs il y a des années, et je travaillais avec eux, et je les emmenais dans notre église dans le Kentucky, et je les emmenais dans l'arrière-salle après, et je disais, bon, vous avez fait ça, n'est-ce pas? Vous devez travailler sur ceci, cela et cela. Donc j'essayais de les former. Mais dès qu'ils ont trouvé un emploi pour gagner 7 ou 8 dollars de l'heure, ils n'y venaient plus à l'église et tout le reste. Non seulement cela, mais ils se mettent avec une fille et tout le reste. Donc, cela montre tout simplement. Suivez l'argent. Que faites-vous de votre argent? Aidez-vous les autres? Quand vous voyez qu'une personne a peut-être besoin d'un dollar ou deux, vous lui donnez un dollar ou deux ou quoi? Ou êtes-vous simplement avare tout le temps? Dans Apocalypse 3, 16, nous entendons Jésus dire, « Parce que tu dis, je suis riche, et j'ai accru mes biens, et je n'ai besoin de rien. Et tu n'es mis c'est pas que tu ailles malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. » L'attitude de Laodicée Esther de dire, « Je suis riche. Il vous suffit de regarder toutes les choses que j'ai. Je suis accru de bien. J'ai beaucoup de choses. Et pourtant Jésus dit, ils sont pauvres, aveugles et nus. » Frevel était très connu pour avoir dit qu'en tant que ministre, vous serez tenu responsable de chaque centime de la dîme et des intérêts qui y sont attachés. Alors, qu'en faites-vous? Aidez-vous les autres? Ou avez-vous un tas de Cadillac et toutes ces autres choses? Je pourrais être un homme très riche. Cette église a distribué 1,8 million de dollars sur 20 ans. Sester beaucoup d'argent par an. Et nous avons donné cet argent pour aider d'autres ministres dans le monde. Nous en avions jusqu'à 46 ministres par an à un moment donné. Est-ce que je prends ce genre d'argent? Est-ce que ce genre d'argent rentre? Non. Donc, tout ce que je dis, c'est-à-dire que je me suis relégué à prendre une allocation de logement. Cela paie pour notre nourriture et des choses comme ça, puis il couvre l'essentiel, comme l'électricité, l'eau et d'autres choses du genre. Je ne m'y suis pas dans ce monde pour gagner de l'argent. Si je l'avais voulu, je serais resté dans le football, où j'aurais pu gagner des millions de dollars. Ce n'est pas une question d'argent. En fait, si vous pensez que l'argent est une chose si grande, regardez les gens à qui Dieu en donne. C'est une malédiction. Ils n'y sont pas contents. Ils sont en donne toujours posséder plus. Que puis-je posséder d'autre? Quoi d'autre? Je veux dire, certains sont milliardaires, et pourtant ils veulent de plus en plus et de plus en plus, et ils écrasent le petit gars pour ça. Ils vont devoir répondre pour chaque centime en plus des intérêts. Maintenant, je n'y crois pas qu'ils nous parlent seulement de leurs conditions spirituelles, bien qu'il soit vrai que spirituellement ils sont pauvres, aveugles et nus. Mais bien qu'ils aient beaucoup de choses, ils sont endettés, 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 et c'est le travail qui les attend au point que leurs dettes en ont fait des esclaves afin de payer ces choses. C'est incroyable, je me souviens qu'en 1977, Quand 77 Esther venue et Esther partie? Bien sûr. Il y avait une, 9, doctrine à l'époque qui disait que le monde prendrait fin en 77. Il n'y comprenait pas que frère Branham parlait des systèmes mondiaux. Il voulait dire que la monnaie changerait. Et donc il y avait un gars, frère Cash m'a dit, il a dit, j'avais un jeune homme qui, quand le moment Esther venu et Esther parti, je veux dire, en fait, quand nous sommes arrivés à la fin de 77, ce gars paniquait parce qu'il avait emprunté et emprunté et emprunté. À l'époque, il devait 75 000 $. C'était beaucoup d'argent. C'est Esther beaucoup d'argent aujourd'hui. Et il a emprunté, emprunté. Il avait des bateaux, des voitures, il avait tout. Et il devait encore et encore, et maintenant il devait payer pour cela, parce que 77 Néhémie nous a pas vu partir d'ici. Comme quoi, les gens sont stupides. Et j'utilise le mot stupide parce qu'ils sont ignorants. L'apôtre Paul a utilisé le mot ignorant. Esther probablement un mot plus gentil, mais stupide Esther stupide, pour frère Vell, stupide, c'est Esther ignorant. D'accord? Et bien qu'ils aient beaucoup de choses, ils sont endettés, 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 et ils vont au travail. Vous savez, comme le dessin animé Disney il y a des années. Au point que leurs dettes en ont fait des esclaves, pour payer ces choses. La majorité des gens d'aujourd'hui Néhémie sont rien de plus que des serviteurs sous contrat. Plus de 50% de toutes les actions achetées en bourse sont payées par carte de crédit. 50% sont payées par carte de crédit. Vous allez donc retirer un intérêt de 20% pour acheter des actions, et vous obtenez 2% de l'action. Je suis désolé, mais les gens sont juste stupides. Ils sont mal acquis informés. Et le truc, c'est Esther qu'on vous donne des montants de dépenses presque illimités sur ces cartes, et lorsque vous arrivez au point où vous avez atteint le maximum de cette carte, vous demandez simplement une autre carte avec un niveau de crédit plus élevé au point que vous êtes lié comme un esclave sous contrat travaillant juste pour faire les paiements minimums. J'ai eu un patron il y a des années, et il m'a demandé, recevez-vous tous ces chèques par la poste? J'ai dit, oui, je reçois des chèques de 50 000 $. Je dois juste signer mon nom. Et puis tout d'un coup, j'ai une dette envers la banque, et j'ai reçu un chèque de 100 000 $. J'ai reçu un chèque de 80 000 $, pour 40 000 $. Et il a dit, je les reçois aussi. Il a dit, vous savez ce que j'envisage de faire? J'envisage simplement de les encaisser tous et ensuite aller me cacher quelque part. Il en faisait une blague. Mais c'est Esther cette société. Ils font en sorte qu'il est Esther si facile de s'endetter. Pourquoi? Ils vous veulent comme esclave. Vous serez heureux, et vous n'aimez de vrai rien parce que vous n'aurez rien. La chose va s'user avant que vous n'ayez fini de la payer. Quel piège du diable! Regardez l'avertissement que Pierre nous a donné dans 2 Pierre 2, 18 car quand ils prononcent de grandes paroles enflées de vanité, ils séduisent par les convoitises de la chair, car lorsqu'ils prononcent de grands mots enflés de vanité, ils attirent, qu'est-ce que ça signifie d'attirer? C'est Esther comme séduire. Ils séduisent, attirent, ils appâtent. Ils trompent par les convoitises de la chair. C'est Esther drôle. Mais nous sommes aux deux tiers des êtres spirituels. Et donc nous devrions nous préoccuper de l'amour et de l'émotion et de tous ces cinq sens. Mais nous n'aimons le faisons pas. Nous nous préoccupons de la vue, du goût, du toucher, de l'odorat et de l'ouïe, et nous sommes attirés par la vue où nous sommes, 10, attirés par cela. Oh, ça sent bon. C'est vraiment un bon parfum. Nous voyons des choses ou nous entendons des choses. Oh, c'est Esther de la belle musique, et nous n'écoutons pas les cinq autres, sans ni le sixième sens, qui vient de l'âme. Car lorsqu'ils prononcent de grands mots enflés de vanité, ils attirent, ils séduisent, Ils appâtent. Ils trompent par les convoitises de la chair, par beaucoup d'impudicité, ce qui venait juste d'échapper de ceux qui vivent dans l'erreur. 19 Tandis qu'ils leur promettent la liberté. Maintenant, je suis désolé, mais si quelqu'un vous offre une maison d'un million de dollars, ou disons, il se trouve que c'est en quelque sorte la moyenne, presque. Disons qu'il vous offre un manoir de 2 millions de dollars, l'accepteriez-vous? Ou si vous êtes intelligent, vous direz, eh bien, juste une minute. Et si j'avais ce manoir? Quels sont les paiements? Je veux dire, quels seront les impôts dessus? Oh, ce n'émis serait que 10 000 dollars, par mois. Eh bien, je n'émis gagne que 12 000 dollars, par an. Donc ce n'est pas possible. N'est-ce pas? En d'autres termes, Néhémie, soyez pas stupide. L'attrait de la richesse est stupide. L'attrait d'avoir des choses est stupide. Alors que vous pourriez accumuler un trésor au ciel où l'atteigne Néhémie vous prend rien et que la ruine Néhémie détruit pas, ou que vous préférez dépenser l'argent pour ce qui va vous être pris par le gouvernement? Ou plus précisément, tout en leur promettant la liberté de faire ce qu'ils veulent, ils sont eux-mêmes asservis à la corruption. Car on estère sous la servitude de celui par qui on estère vaincu. Combien de personnes connaissez-vous qui dépensent leur chèque hebdomadaire pour quelque chose comme, oh, je vais acheter un tas de billets de loterie parce que je vais devenir riche. Puis, quand ils deviennent riches, ils ont l'argent. Après environ 2 semaines, tout est reparti, et ils redeviennent pauvres. Et c'est là que vous devez répondre à la question de savoir si vous devriez utiliser des cartes de crédit ou pas. Bien sûr, ils sont faits pour être pratiques. C'est ce que dit la Bible. Il est dit, et ils sont eux-mêmes asservis à la corruption, car on est sous la servitude de celui par qui on est vaincu. Ils sont foutus. Ce n'est pas une carte de crédit. C'est une carte d'esclavage. Vous allez payer 18 à 20%. Matthieu 7, 13 Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. 14 Parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Peu de gens trouvent la bonne façon de vivre. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 6, 12 Toutes choses me sont permises, mais toutes choses n'émises sont pas utiles. Oui, je peux le faire. Je peux probablement m'en sortir pendant 1 an ou 2. Et après, ce n'est pas utile. Cela signifie que ce n'est pas profitable, toutes choses me sont permises, mais je n'ai mis serait assujetti sous le pouvoir d'aucune. Tant de gens utilisent l'argument, eh bien, l'occasion était si bonne que je devais juste l'avoir maintenant. Ils ont dit un jour seulement, c'est pris Néhémie durera pas. Et vous êtes tombé dans le piège séculaire. Car la semaine prochaine, il sera en vente pour la moitié de ce que vous avez payé. Et lorsque vous avez payé à l'aide de cette carte de crédit, vous avez fini par payer 18 à 20% d'intérêt et maintenant vous payez des intérêts sur les intérêts. C'est tout simplement idiot. 11. Combien ont déjà entendu cette astuce de vente, acheter pour moins cher aujourd'hui parce que demain les prix augmentent? Si jamais vous entendez ces émissions de marchandisage à la radio ou à la télévision, ils disent un jour de solde seulement. Et pourtant cette même émission est diffusée environ une fois par semaine et le prix n'augmente jamais. Au contraire, il baisse. Achetez-en 6 et vous les payez pour 49 dollars, chacun. Achetez-en 1, cela vous coûterait 69 dollars. Eh bien, vous savez quoi? Pourquoi n'aimez-vous pas essayer d'en acheter un, pour voir si ça marche? Écoutez, moi aussi. Je suis tombé dans le panneau, achetez-en un et voyez si ça marche. Vous pourriez économiser 300 dollars, de plus si vous n'aimez les achetez pas par demi-douzaine, car ce n'est probablement qu'un tas de conneries. mais il faut juste que l'ayez. Comme avec les ordinateurs. Oh, il faut que j'aie ce modèle. Et pourtant, si vous attendez quelques mois, il sera à peu près la moitié du prix. Parce qu'un plus récent et plus brillant sera mis en place. Vous savez, la technologie change tous les 6 mois. Donc, si vous attendez 6 mois pour ce très beau produit, vous l'achèterez à moitié prix parce que dans 6 mois, ils auront quelque chose d'autre, qui sera encore mieux. Avez-vous vraiment besoin du meilleur? Il n'est mis dur que 6 mois. Nous avons donc affaire à la tromperie. Et voyons maintenant comment cette tromperie se fraye un chemin dans le mariage. Nous avons constaté que les mots « tu n'es mis » portera pas de faux témoignage contre ton, signifie que vous n'es mis devez jamais être sciemment coupable de mensonge avec l'intention de tromper. Il est Esther dit, contre ton. Et c'est Esther la clé. C'est Esther une chose de se tromper soi-même, mais c'en est Esther une autre lorsque votre tromperie implique une autre personne. Et comme je l'ai souligné plus tôt, cette tromperie Némi signifie pas seulement mentir à votre femme. Mais cela signifie aussi son laisser prendre mensonge ou à la tromperie et cela a un impact direct sur votre conjoint. Si votre conjoint Némi paie pas sa dîme, il vole Dieu. Maintenant, si cet argent est Esther en partie à vous, alors vous en subirez également les conséquences. Mes enfants savent que tant qu'ils vivront sous mon toit, ils obéiront aux lois de Dieu auxquelles j'obéis, parce que s'ils n'aiment et le font pas, ils apporteront la malédiction dans ma maison. Comme frère Branham l'a dit à Billy Paul, Esther ce que tu veux cette voici, paume ouverte ou cette voie-là, point fermé? Il a dit, tu prends cette musique et tu la sors de la maison. Et si tu n'aimes et peux pas faire cela, alors sors et va simplement vivre ailleurs, parce que je veux garder ma maison dédiée à Dieu. Ce sera une maison de Dieu. C'est Esther ainsi que mes enfants savent ce que signifie rendre à Dieu et rendre à César, et diviser correctement ce qui est Esther à César et ce qui est Esther à Dieu. Je m'assure qu'ils savent qu'ils sont bénis. Le parent qui n'applique pas la parole de Dieu dans sa maison vole à ses enfants les bénédictions de Dieu. 12. Il y a des années, quand Christina avait 7 ans, ce qui est Esther à ses jeunes, à l'école, on distribuait des bonbons. Sur le chemin du retour, des gars lui ont dit, « Oh, je paierai 1 centime pour celui-ci. Je te paierai 25 cents pour celui-ci. » Alors elle est rentrée à la maison, et je pense qu'elle a dit, « Papa, j'ai gagné 1 dollar aujourd'hui. » Et j'ai dit, « Eh bien, » ai-je dit, « Aimerais-tu faire ça tous les jours ?» Alors j'ai dit, ok, ce que tu sais, c'est Esther que tu prends la moitié de l'argent que tu as gagné, tu paies tes dîmes dessus. C'est Esther la première chose que tu fais. Tu paies ta dîme sur ce que tu as gagné. Ensuite, tu prends les 40% restants, tu les épargnes. Ensuite, tu prends 50% de ce que tu as gagné, et tu réinvestis dans un paquet de 10 chi ou un gomme. Ensuite, tous les jours, tu peux vendre du chewing-gum dans le bus. Et elle gagnait 7 dollars, par semaine 7 ans. Et elle l'a fait avec justice, et elle a payé sa dîme là-dessus, et elle s'est fait des économies. Donc, voyez-vous, si vous enseignez à vos enfants comment faire des bénéfices, ils seront bénis par Dieu. Et c'est le cas. Elle est très bénie par Dieu. Un autre moyen par lequel votre conjoint, peut porter un faux témoignage, c'est Esther dans ses confessions. Prétend-il être croyant, et elle n'est mis vive pas sa confession? S'il trompe les frères, alors ils vous tromperont. En d'autres termes, sont-ils seulement chrétiens le dimanche, mais ils jurent comme un marin pendant la semaine? Ou bien ils sont chrétiens le mercredi et le dimanche, mais il parle comme le diable pendant la semaine. Dans le message Les Oins du Temps de la fin 25 juillet 65 matin 49, frère Branham dit, maintenant, vous pouvez le greffer là-dedans. Vous voyez, chaque pamplemousse, citron, tangelot, mandarine, quels que soient les agrumes, chacun d'eux peut vivre dans cet arbre, mais en rendant un faux témoignage de l'arbre, vivant de l'arbre. Vous le voyez? Ils vivent et prospèrent grâce à la vie authentique qui estère dans cet arbre. Maintenant, en d'autres termes, un chrétien peut faire la même chose. Oh, je donne tout ce que j'ai au Seigneur le dimanche, mais pendant la semaine, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils ne sont donc pas vraiment chrétiens, mais ils sont un angelot ou un pamplemousse. Ils ne sont pas de vrais oranges. Maintenant, voilà Matthieu 24, 24. Vivre de la même vie, mais il n'était pas juste dès le départ. Il rend un faux témoignage de cet arbre. Cester un oranger. Pourtant, Cester un agrume. Et ils disent, cette église, cette dénomination témoignage de Christ. Esther ce vrai, et vous avez reçu un faux baptême, un faux témoignage de la parole. Essayant de dire que la puissance de Dieu n'était que pour les disciples? Remarquez qu'ils sont greffés dans l'arbre mais Néhémie sont pas dans la semence originelle de cet arbre. Une orange peut être greffée sur un pamplemousse et vivre encore sur cet arbre, car Cester un agrume. Et si vous regardiez l'arbre, vous penseriez que Cester un pamplemousse, parce qu'il y a des pamplemousses qui poussent dessus. Et à quel point les gens peuvent être trompeurs. Prétendre être chrétien, ayant une forme de piété, mais reniant la parole. Détournez-vous d'eux. 13. Rappelez-vous, le mot hébreu utilisé pour porter un faux témoignage Esther le mot shker, shker, et il signifie décevoir, falsifier ou tromper. On parle d'une tromperie délibérée et d'un comportement frauduleux. Et vous Néhémie pouvez pas développer l'unité si vous Néhémie pouvez pas développer la confiance. L'opposé du mensonge Esther la véracité et l'honnêteté. Webster nous dit que l'honnêteté Esther les libertés de Néhémie pas mentir. Remarquez libre du mensonge. Oh, là là. Je Néhémie me laisse pas prendre au piège. La liberté de Néhémie pas voler, la liberté de Néhémie pas tricher. Et être honnête implique la confiance et la fiabilité. Webster nous dit que la confiance Esther est la croyance ferme ou la confiance dans l'honnêteté, l'intégrité, la fiabilité, la justice, etc., d'une autre personne ou d'une chose. En d'autres termes, la foi. Et quand Esther est vide entre deux personnes, vous Néhémie ne pouvez pas vous empêcher d'aimer cette personne. Paul a dit dans Corinthiens 13, 4, 1. La charité endure longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Vous n'évoquez pas les choses. Vous n'aimez le fait simplement pas. La charité endure longtemps. Vous pensez, eh bien, si je n'aime dit pas quelque chose, il n'aime le changera jamais. Cester comme frère Michal, il y a des années. Il a dit, eh bien, tel frère boit. J'ai dit, eh bien. Ai-je dit, priez simplement pour lui. Eh bien, vous devriez dire quelque chose, parce que vous êtes le pasteur. Et je dis, eh bien, si je dis quelque chose, il n'aime y boira tout simplement pas en ta présence ou la mienne. Mais il continuera ainsi, mais si Dieu s'empare de lui, il le changera. Ainsi la charité endure longtemps. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous endurerez longtemps. En d'autres termes, cela signifie être patient en supportant les offenses et les blessures des autres, être doux et lent à punir. 2. Elle est pleine de bonté, se montrer doux, être gentil, utiliser la gentillesse. 3. La charité n'est pas envieuse, s'échauffer ou bouillir d'envie, de haine, de colère. Dans le bon sens, être zélé dans la poursuite du bien. 4. La charité Néhémie se vante pas, se vanter soi-même, une démonstration de soi, employer des embellissements rhétoriques pour se vanter excessivement. 5. La charité Néhémie s'enorgueillit pas, cela signifie gonfler, faire se gonfler de fierté, être bouffi d'orgueil. rendre orgueilleux, être gonflé, se tenir hautainement, être orgueilleux. 6. La charité Néhémie se comporte pas de manière malhonnête, inconvenante. 7. La charité Néhémie cherche pas son intérêt, n'est-ce pas égocentrique. 8. La charité Néhémie s'irrite pas facilement, irriter, provoquer, mettre en colère, se moquer, mépriser, s'exciter à la colère, exaspérer, brûler de colère. Vous avez des personnes qui se promènent comme ça. Restez à l'écart d'eux. Ces atmosphères Néhémie feront qu'allumer une tempête. 9. La charité Néhémie pense pas le mal à qui, n'a pas de mauvaises pensées ou de pensées nocives envers les êtres aimés. 14, 10. La charité Néhémie se réjouit pas de l'iniquité. Se réjouir, être dans l'allégresse, se réjouir excessivement, et l'iniquité est-elle une chose que vous savez faire, mais vous Néhémie la faites pas. 11. Mais la charité se réjouit dans la vérité, se réjouir avec, participer à la joie d'un autre, se réjouir ensemble, féliciter. 12. La charité supporte toute chose, couvrir par le silence, garder secret, cacher, dissimuler, s'ester à dire caché et excuser les erreurs et les fautes d'autrui en les couvrant pour éloigner une menace. Résister, et donc endurer, supporter, être patient. S'ester comme quelqu'un était venu voir frère Branham et lui avait dit, quelqu'un dit quelque chose au sujet de votre mère. Il a dit, oh, oubliez ça. Eh bien, frère Branham, vous devriez vous mettre en colère parce que cela vous concerne. Il lui a répondu, écoutez, cela vient du diable. Si je réagis à cela, je réagirai à ce que le diable a dit. Mais la charité couvre ces choses, couvre une multitude de péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'une multitude? Eh bien, c'est-ce plus d'un péché? C'est-ce plus de deux péchés? C'est-ce plus de trois péchés? 13. La charité croit toute chose, s'engager à, se confier à, être confié à, être confié à sa propre confiance, penser être vrai, être persuadé de, croire, avoir confiance. 14. La charité espère toute chose, attend ardemment et. 15. La charité supporte toute chose. Le mot endurer signifie prendre patiemment, attendre, demeurer avec, être patient avec, souffrir, rester avec, rester en arrière, demeurer, n'aimer pas reculer ou fuir, préserver, dans les malheurs et les épreuves, s'accrocher à sa foi, endurer, supporter courageusement et calmement les mauvais traitements. Supportez-vous calmement un mauvais traitement? Hein? Dites-vous, Jésus doit-il seul porter la croix? Et le monde entier être libre? Il y a la croix pour tout le monde, et il y a une croix pour moi. 16. La charité Néhémie périt jamais. Cela signifie Néhémie jamais tomber de, chuter de, tomber de, métaphoriquement, tomber d'une chose, vous Néhémie la perdez jamais. Maintenant, si vous avez ce genre d'amour votre homme ou votre femme, vous aurez aussi tous ces attributs de l'amour. Et si vous n'avez pas ces attributs de l'amour, vous n'avez pas l'amour, vous avez de l'affection, il se peut que vous puissiez avoir de l'engouement, que vous puissiez avoir de l'appréciation, mais si vous aimez vraiment, alors vous endurerez vraiment toute chose. Combien de fois avez-vous rencontré une femme qui était une personne adorable, et qui avait juste un mari peu aimable, et qui profitait simplement d'elle et faisait ceci et cela. Mais Esther restait à ses côtés. J'admire vraiment une femme qui fait ça. J'admire aussi un mari qui ferait cela. Mais si vous aimez vraiment, alors vous endurez vraiment toute chose, vous espérerez le meilleur en toute chose, vous croirez le meilleur en toute chose, vous supporterez toute chose, vous serez gentil et pas égocentrique, et vous vous réjouirez ensemble et vous n'aimez vous mettrez jamais en premier. Maintenant, Comment allons-nous avoir de l'amour pour nos frères, si nous n'y pouvons pas avoir d'eux? 15. L'amour l'un pour l'autre? Sestère ce que dit la Bible. Comment allons-nous avoir de l'amour pour nos frères, si nous n'y pouvons pas avoir ce genre d'amour pour notre conjoint? Dans son sermon l'adoption 4e partie 22 mai 60 soir, son frère Branham dit, « J'ai dit, au Seigneur, c'est-ce pour cela que je suis ici à l'église, essayant de mettre en ordre l'église, vous disant, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose qui peut y entrer, c'est-ce l'amour parfait. Ce n'est-ce pas parce que vous êtes fidèle au Branham Tabernacle, ou à l'église méthodiste, ou à l'église baptiste, c'est-ce bien vrai, vous devriez l'être. Remarquez, vous devriez l'être. Mais ce n'est-ce pas là que ça se passe. Mais, oh, les amis, vous devriez. Non pas parce que vous avez parlé en langue, que vous avez dansé dans l'esprit, parce que vous avez chassé les démons ou déplacé des montagnes avec foi. Tout cela est très bien, car c'est très bien, mais quand même, à moins que cet amour véritable et parfait n'ait mis cela dedans. C'était là où se trouvait l'amour parfait. Sans Dieu ils ont reçu un héritage. Nous héritons quoi? La vie éternelle. Étant prédestinés. Comment? Est-ce ce que tout le monde comprend cela? Avez-vous invoqué Dieu? Non. Dieu vous a appelé. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est ce Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, nul n'émi peut venir à moi si mon père n'émi l'attire le premier. Voyez-vous, c'est la nature de l'homme de fuir Dieu. Et vous dites maintenant, c'est ce qui me dérange cependant, de vous prêcher, Néhémie restez pas dans le même état que celui dans lequel vous êtes entré. Changez maintenant. Écoutez-moi comme je le prononce, l'ainsi dit le Seigneur. Je Néhémie me suis jamais appelé comme ça, je Néhémie suis pas. Mais vous m'avez appelé votre prophète, ou un prophète. Le monde croit cela, le monde entier, des millions et des millions et des millions de personnes. J'ai parlé directement et indirectement à 10 ou 12 millions de personnes, ou plus, directement. J'ai vu des dizaines de milliers de visions, de signes et de prodiges, et aucun d'entre eux n'a jamais échoué. Et c'est vrai. Il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué de se produire. À la lettre. J'irai en justice avec n'importe quel homme pour cela. C'est vrai. Je n'ai prétend pas être prophète, mais écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur, il faudra l'amour parfait pour vous faire entrer dans cet endroit, car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe le nombre de manifestations religieuses, le nombre de bonnes actions que vous avez faites, ou quoi que vous ayez fait, cela n'est mis compta pas ce jour-là. Il faudra l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez de côté tout le reste, au point que vous soyez tellement rempli de l'amour de Dieu, que vous pouvez aimer ceux qui vous haïssent. Je suis juste, comme je l'ai dit ce matin, que j'étais fait. Toute ma constitution est grâce. Beaucoup de gens disent, maintenant, vous me grattez le dos, et je gratterai le vôtre. Oui, tu fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi. Ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est que si ton dos te démange, je le gratterai de toute façon, que tu grattes le mien ou pas, vous me giflez au visage et vous dites, j'ai besoin qu'on me gratte le dos, je le gratterai. Vous voyez? 16. Voilà. Faites quelque chose. Je n'y crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres, c'est l'amour. Les œuvres, c'est la manifestation que la grâce a eu lieu. Avez-vous déjà fait quelque chose pour une personne encore et encore? Vous continuez à les aider et ils se fâchent presque quand vous arrêtez. Ils n'y font pas le vôtre ou ils le font de temps en temps. Ils n'aiment ils vous gratteront pas le dos ou quoi que ce soit. Ils feront quelque chose pour vous de temps en temps. Mais vous, vous continuez à le faire. Ils pourraient être de la plus mauvaise humeur, mais vous continuez à le faire. Sester l'amour. Sester la grâce. Et s'ils ne le comprennent pas, je suis désolé, mais il n'y a pas de grâce pour eux, parce qu'ils n'ont pas de grâce pour les autres. Je n'y suis pas fidèle à ma femme, parce que je crois qu'elle divorcerait si je ne le faisais pas. Je suis fidèle à elle parce que je l'aime. Je n'y prêche pas l'évangile, parce que je pense que j'irai en enfer si je ne le faisais pas. Je prêche l'évangile parce que je l'aime. Certainement. Vous pensez que je traverserai ces mers houleuses, et ces avions qui n'aiment cessent de plonger et de remonter, et ces éclairs qui jaillissent, et tout le reste, et presque n'importe quand, et tout le monde criait, et la prière de « Je vous salue Marie » qui était faite partout dans l'avion, et tout. Souvenez-vous en tous les « Je vous salue Marie » lorsque nous étions en route pour le Brésil. Ces gens qui se balançaient dans leur ceinture de sécurité, et le pilote qui disait « Assez de carburant pour durer 15 minutes de plus », je n'ai sais pas où nous sommes. Pensez-vous que je ferais cela juste tirer juste pour le plaisir de le faire? Hein? Je dirais la même chose. J'ai été dans des avions et plusieurs fois les ailes montaient et descendaient comme celles d'un oiseau. Elles n'aimaient sont pas censées s'étendre aussi loin. Elles l'ont fait. Les gens récitaient leur « Je vous salue Marie », ma fille assise ici et l'autre fille assise à côté de la fenêtre. Et tout d'un coup, un bruit comme une grosse explosion. Et 12 ont fait exploser tout le côté gauche de l'avion. Et le côté droit était accroché, disait-il, d'un pouce. Nous avons dû vider tout le carburant. Et j'ai une vidéo à la maison qui montre que l'avion était en feu. Quelqu'un l'a prise et l'a envoyée à la chaîne d'information. Je l'ai environ un mois plus tard. Vous pensez que je prierai pour les gens? Quatre personnes sont venues pour la prière et elles avaient la tuberculose. Vous pensez que je ferais ça juste parce que? Eh bien, c'est-ce une chose à faire, de simplement prier pour les malades? Ou pensez-vous que Dieu vous ait vraiment envoyé? Vous feriez mieux de savoir que Dieu vous a envoyé. Vous pensez que je retournerai là-bas, dans la jungle où les soldats allemands devaient m'entourer de leurs bras, comme ceci chaque soir et me faire entrer et sortir de la réunion, jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à accomplir des miracles, les communistes s'installant avec des lunettes de nuit, pour me tirer dessus à 1,5 km de distance. À 1,5 km de là. Vous pensez que je ferais ça juste pour le plaisir? C'est-ce parce que quelque chose en moi, l'amour. Ce sont des humains pour lesquels Christ est mort. 17. Paul a dit, non seulement je suis disposé à monter à Jérusalem, mais j'y monte pour être crucifié. Je monte pour mourir. J'y monte pour mourir pour la cause du Seigneur. C'est-ce quelque chose, l'amour qui vous contraint, qui vous fait. C'est tout à fait exact. Si j'avais prêché l'évangile pour l'argent, si cela avait été le cas, je n'aurais pas eu 20 000 $ de dette ce soir. Je n'y serais pas aussi endetté. Non, monsieur. Parce que j'aurais gardé une partie des millions qui m'avaient été donnés. Un homme a envoyé un agent du FBI avec une traîne d'1 500 000 $. Et j'ai dit, reprenez-la. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas une question d'argent. Je n'y prêche pas l'évangile pour l'argent, ce n'est pas pour cela. C'est à cause de l'amour. La chose que je veux faire, c'est quand je traverserai ce dernier souffle là-bas, ce qui sera peut-être dans 5 minutes, ce sera peut-être dans 2 heures, ce sera peut-être dans 50 ans. Je n'y sais pas quand ce sera le cas. Mais quand c'est le moment, que j'y arrive effectivement, je veux voir la splendeur de la jeunesse courir en hurlant, mon frère chéri, mon frère. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est pourquoi. Je n'essaie pas d'être en désaccord avec vous pour être différent, mais j'essaie de vous mettre sur la bonne voie. C'est Esther la porte d'entrée. Pas votre église, pas votre dénomination, mais votre naissance en Christ. Oh, là là. Fiu. Alors, les gars, il est certain de commencer à regarder votre avenir. Il n'est mis vous reste plus beaucoup de temps. Vous avez peut-être quelques mois tout au plus, et les choses vont devenir très paralysantes dans ce monde. Ils vont rassembler des gens, faire des injections de force et tout le reste, ou vous tuer. Parce que si vous n'avez mis, prenez pas la marque de la bête, ils vous tuent. Et cela se passe autour de nous. Cela va se reproduire. Nous sommes prêts pour le deuxième round. Êtes-vous prêts pour le deuxième round de Dieu? À minuit pour vous le livrer. Eh bien, je vais être prêt dans mon esprit. Inclinons donc la tête dans la prière. Père miséricordieux, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ta parole et pour qui tu es aille, sachant que les épreuves viendront, parce que c'est Esther simplement ainsi que tu fais les choses. Maintenant, je n'ai ému peut pas l'expliquer. Je me disais, eh bien, si Dieu nous aimait vraiment, il Néhémie nous donnerait pas autant de tests. Mais vous savez quoi? Il veut construire le caractère, et le caractère vient toujours de la souffrance, parce qu'il Néhémie veut là que des gens qui ont du caractère, le caractère de Christ. C'est Esther pourquoi Paul a dit, je vis par la foi du Fils de Dieu. Ce n'est Esther pas moi qui vis, c'est Esther lui qui vit sa vie à travers moi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, août 2024. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourt@yahoo.com 18.